Bonjour, on attend Lionel Davous qui est en retard. J'espère que vous allez le huer quand il va arriver. C'est sans doute pas de sa faute, mais bon, on va pas s'en priver. Merci d'être ici ce soir à l'heure du repas, de l'apéro. Voilà. Donc, une table ronde sur les anthologies de science-fiction instantanées d'une littérature qui fait très plaisir, qui me fait très plaisir, à laquelle je prends beaucoup de plaisir à participer. Parce que la nouvelle est vraiment le point à la fois central et original de la science-fiction. Donc je suis très content qu'on aborde ce thème et la façon dont on s'en occupe. Donc Lionel va arriver. Donc je vais commencer par présenter mes invités en commençant par Gérard Klein, qui est à la fois romancier, anthologiste, éditeur. Voilà, il n'a pas édité que des anthologies, mais il a édité aussi des romans tous plus célèbres les uns que les autres. Préfacier, essayiste, voilà. Qui, lui, va pouvoir nous parler des plus grandes anthologies de la science-fiction française, puisqu'il s'en a occupé pendant longtemps. À sa droite, Simon Bréant, qui est... Alors, je regarde mes notes pour ne pas me tromper. Maître de conférence en littérature française à la Sorbonne. Voilà. Il a publié La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature. Et pour ce qui nous concerne plus précisément ce soir, il a dirigé pour Parchemin et Traverse l'anthologie Frontières, voilà, qu'il a ici, que nous vous encourageons à acheter évidemment. Hein. Voilà. Et qui, lui, va pouvoir nous apporter à la fois son point de vue d'anthologiste et aussi, on peut le dire, d'historien du genre et de spécialiste du genre. À sa droite, Sylvie Lenné, qui est plutôt novelliste, tout à fait novelliste, voilà, qui est une vraie novelliste de science-fiction, voilà, qui a publié plusieurs anthologies, qui en a dirigé, qui a participé à des anthologies. Et à sa droite, une autre Sylvie, nous sommes cernés. Sylvie Miller, qui est elle aussi, alors elle est romancière, novelliste, traductrice. Tu traduis de l'espagnol et de l'anglais, voilà. Qui elle aussi a dirigé des anthologies avec Lionel Davous, qui, je le rappelle, n'est pas là, et qui a publié aussi dans des anthologies. Voilà. Donc ma première question, ça sera pour Simon. Peut-être resituer la nouvelle. Dans l'histoire du genre, peut-être pas qu'en France, mais dans l'histoire du genre, le point central qu'elle occupe, la nouvelle de science-fiction, et peut-être par rapport, dans l'évolution, par rapport à la littérature générale, où ça a un peu divergé. Si. Voilà, c'est possible.
C'est un vaste... je fais ça en 30 secondes chrono.
On a le temps. Hein,
oui, bien sûr. Non, alors, en fait, donc... la question de la nouvelle, de façon aussi large, moi j'étais préparé sur des choses un peu plus précises.
Non, mais parle de la SF,
mais
c'est pas on parlera
peut-être
après.
Très bien. Non, mais allons-y. Donc, en fait, je me fais l'écho par anticipation de ce que mes camarades ici présents vous diront, je pense, parce que c'est une... À la fois, c'est une vérité de la science-fiction qu'elle s'est forgée en grande partie dans la nouvelle. Hein. C'est-à-dire que, au départ, il y a un phénomène crucial qui s'est produit. Alors, on peut bien sûr faire remonter le genre et le principe de la spéculation, de l'extrapolation avant les pulps américains du début du XXe siècle. Et il ne s'agit pas de fonder le principe de la science-fiction dans cette chose-là, mais la nouvelle a été pour la science-fiction le catalyseur, le creuset plus exactement, le creuset de constitution d'un répertoire cumulatif que un chercheur a dénommé, Damien Broderick a dénommé le méga-texte de la science-fiction, et l'idée qu'il y a véritablement... Voilà, mesdames et messieurs, Lionel Davoust. Voilà, non, mais personne ne saurait en vouloir.
Nous avons juste eu le temps de dire du mal de toi, c'était parfait. Voilà.
Mais vous n'avez pas hué, c'est pas bien.
Ah, ils sont fatigués, voilà. Merci d'être là quand même. Et donc la science-fiction creusée d'une constitution à la fois assez rapidement d'une sorte de mémoire instantanée, c'est-à-dire que si on envisage la création en science-fiction comme une forme d'intelligence collective, ce qui est à mon avis une des caractéristiques de ce qu'on peut appeler un genre de ce point de vue-là, eh bien, la nouvelle et le vecteur, c'est-à-dire les revues de pulp, la nouvelle a clairement servi de vecteur à cette intelligence collective. Et je crois, enfin, de ce point de vue-là, je crois vraiment dire quelque chose d'assez simple. Pour autant, ça ne veut pas dire que la science-fiction se réaliserait uniquement dans la nouvelle ou par excellence dans la nouvelle. C'est un certain type de science-fiction dont on pourra parler, et une science-fiction qui souvent est une science-fiction brillante, une science-fiction de l'idée, mais pas seulement, bien sûr. Et par ailleurs, on ne peut pas dire que la nouvelle se soit particulièrement révélée comme forme par la science-fiction, puisque au contraire, enfin, la pratique de la nouvelle est bien antérieure, notamment enfin au XIXe siècle, ça s'est devenu, dans le fantastique notamment, il y a vraiment eu une tradition très forte qui s'est développée de ce point de vue-là. J'ai pas envie d'être forcément plus spécifique. En revanche, je parlerai volontiers, mais peut-être plus tard, du coup, de la logique des anthologies en France, de l'histoire des anthologies en France.
Il y avait juste quelque chose. Alors, je sais pas du tout si tu es capable d'y répondre, mais dans l'intitulé de la table ronde, on apprend que les nouvelles les plus vendues en France sont les recueils à thème à l'usage des écoles. Alors, moi, j'en vois pas des recueils à thème à l'usage des écoles. Alors, en même temps, je suis pas prof ni écolier, mais.
Les recueils à thème à l'usage des écoles. Alors franchement, là, mon temps. Alors en fait.
Peut-être que Gérard sait, oui.
Oui, je sais pas. Les recueils à thème à usage des écoles seraient extrêmement diffusés.
Seraient les recueils de nouvelles les plus vendus.
Oui, ça c'est possible, mais je crains, j'y viendrai plutôt après, si on parle de la grande anthologie de la science-fiction, je pense que c'est largement issu de ce modèle. Parce que pour celles que je connais, dans ces anthologies à usage scolaire, il y a un démarquage appuyé à cette grande anthologie et d'autres anthologies qui ont suivi. Mais je voudrais faire quelques remarques préliminaires pour compléter ce qu'a dit Simon Briand. La première, c'est que pour moi, la nouvelle et le roman sont de genres différents. La science-fiction n'étant pas pour moi un genre, mais une espèce littéraire. Enfin, je doute que ce point de vue s'impose, hélas, durablement. Mais la nouvelle et le roman sont vraiment des genres différents. Et leur fréquence dépend en grande partie de leur support. Si la nouvelle a connu au XIXe siècle en particulier un tel succès, c'est parce que son support était la presse. Dans presque tous les domaines, quand la presse a cessé d'être un support littéraire, la nouvelle a disparu. Mais quelqu'un comme Maupassant, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, a écrit au moins une ou deux nouvelles, qui relèvent, plutôt deux d'ailleurs ou trois, qui relèvent de la science-fiction, dont L'Homme de Mars, Le Horla, enfin, et probablement un ou deux autres textes. Et tout ça parce que ça paraissait sous forme de presse. J'ai connu la fin de la nouvelle, qui n'était pas du tout science-fiction d'ailleurs, dans je ne sais plus quel quotidien qui a peut-être disparu, mais qui publiait tous les jours une brève nouvelle. Alors, à partir du moment où la presse a cessé de publier des textes littéraires et en particulier des nouvelles, en dehors de la science-fiction, la nouvelle a pratiquement disparu. On peut dire que c'est la littérature de science-fiction, cette espèce littéraire très particulière, qui a continué à faire vivre le genre très spécifique de la nouvelle. Alors les pulps ont joué un rôle considérable là-dedans. Puis en France, les revues spécialisées, fiction surtout, et puis Galaxy, accessoirement Satellite, etc. Mais on continue à écrire et à publier des nouvelles et des recueils de nouvelles. Alors il s'est passé une chose un peu ennuyeuse, c'est que le public des nouvelles, le public des recueils de nouvelles ou des anthologies, qui était considérable quand j'ai commencé, a tellement diminué que je ne peux plus, par exemple, envisager de publier dans Hier et Demain de recueils nouvelles, là que j'en ai autrefois publié assez nombreux. Et pourquoi cette désaffection de ce genre c'est quelque chose que je m'explique pas bien. Bon, c'est le roman, et de préférence d'au moins 700 pages, qu'il a emporté.
Alors, ce soir, on est censé parler des anthologies de SF qu'on ne devrait pas confondre avec les recueils de nouvelles d'un même auteur, puisqu'il s'agit d'anthologies avec plusieurs auteurs au sommaire. Voilà, on avait oublié de le préciser au début. Gérard, est-ce que vous pourriez peut-être nous, pas faire un historique, mais nous raconter comment... alors vous avez travaillé sur la grande anthologie de la science-fiction, mais il y avait... Alors le livre d'or de la SF, c'était des recueils, mais il y a eu aussi des anthologies thématiques, il me semble. Et il y avait aussi les meilleurs récits des pulps, par exemple, de Sadoul. Comment ça s'est développé en France et voilà, comment les éditeurs français ont décidé de faire des anthologies de SF?
Bon, alors... vers le milieu des années 1960, probablement vers 64-65, Jacques Guamard, qui a été l'initiateur, de maître Ioachimidis, qui était un grand collectionneur et qui avait donc une bibliothèque extraordinaire, Alain de Rémieux et moi-même avons imaginé la façon à utiliser, à développer le fonds que représentaient les traductions en revue, mais en allant bien au-delà, des anthologies thématiques. Ce projet a été proposé essentiellement par Guamard, d'ailleurs, qui avait les contacts nécessaires au livre de poche Hachette. Et nous avons signé en 1966 les contrats correspondants. Les livres ont commencé à paraître en 1974, ce qui vous laisse supposer les quelques obstacles que nous avons rencontrés en cours de route. En particulier, un manque total d'intérêt, parce que le livre de poche a changé plusieurs fois de directeur, et un manque total d'intérêt après le départ, je crois que c'était Fallois au départ, du directeur en question. Enfin, nous avions constitué un choix, celui des 12 premières anthologies, et prévoyant l'avenir, un autre choix, je ne l'appellerai pas un deuxième choix au sens qualitatif du terme, qui a constitué les 24 volumes suivants. Donc nous avions tout ça qui était tout à fait prêt, je dois dire que je me suis retrouvé au début des années 70, à la fois appuyé par la création d'ailleurs et demain chez Lafon, et en même temps assez seul face au livre de poche Hachette qui ne manifestait aucun enthousiasme, mais vraiment aucun enthousiasme pour cette série. Et c'est à force que j'ai obtenu qu'elle se concrétise, qu'on achète les droits, ce qui a été une affaire invraisemblable dont je me suis occupé à peu près seul. Guamard avait d'autres soucis. Dorémieux nous avait non seulement abandonné, mais avait assez lâchement déclaré partout que ça ne se ferait jamais. Ioachimidis s'était retourné en Suisse. Enfin bref, c'était je crois franchement que j'ai porté non pas le projet initial, mais sa réalisation au livre de poche. Et puis alors, il s'est passé ceci, c'est que contre toute attente, ça a été un succès colossal. Les 12 premiers volumes se sont vendus entre 80 et 120 ou 140 000 exemplaires en un rien de temps. Il y a eu un succès de presse.
Rappelons peut-être les titres pour les spectateurs. C'était les anthologies qui s'appelaient donc la grande anthologie de la science-fiction. C'était Histoire de robots, par exemple, de voyage dans le temps.
Les 36 volumes s'appellent Histoire de. Alors les 12 premiers, c'est Histoire de robots, Histoire d'extraterrestres, Histoire de voyage dans le temps, Histoire de mutants, Histoire de tout ce que vous voudrez. Et puis les 24 suivants reprennent sous d'autres titres un certain nombre de ces thèmes. Un inconvénient à mes yeux, mais c'est Guamard qui insistait là-dessus, c'est qu'il n'y avait là-dedans que des textes anglo-saxons, soit déjà publiés, souvent d'ailleurs traduction revue, ou bien nouvelle traduction pour des textes qui étaient restés inédits en français. Mais il n'y avait aucune place pour l'auteur français. Évidemment, je n'étais pas très bien placé, étant moi-même un auteur, et ayant publié déjà pas mal de nouvelles, pour défendre leur position. Si bien que quand, longtemps après... j'ai donné une suite à la grande anthologie consacrée, une suite non thématique, enfin pas spécialement thématique en tout cas, mais consacrée aux auteurs français où il y a eu 6 volumes. Ça a eu hélas beaucoup, beaucoup moins de succès.
Moi, je sais que entre ces anthologies et les meilleurs récits de Jacques Sadoul chez J'ai lu, où il donnait un peu l'histoire du genre des pulps en mettant les meilleurs récits, par exemple d'Amazing Stories, les meilleurs récits de Planet Stories, etc. Une sélection drastique avec vraiment les meilleurs. Il y a là tout un pan de ma culture à moi, SF, parce que j'ai l'âge qu'il faut pour avoir lu ces choses-là ou les avoir pris dans les bibliothèques. Est-ce que je voudrais demander aux autres participants du...
Attendez, je vais quand même faire une remarque là, à propos des meilleurs récits publiés par Sadoul, qui était un grand ami. Hein, mais enfin, s'il a fait cette série d'anthologies et d'autres, ça a été à cause de l'immense succès de la grande anthologie, parce que j'ai pas les dates en tête, mais enfin, il a dû s'écouler au moins 10 ans entre la fin de... 5 ans, d'accord, bon. On peut négocier à 6. enfin, il s'est écoulé plusieurs années. Non, mais c'est porté par... Il a convaincu Littis qu'il fallait faire des anthologies, et puis il y en a en marche, quoi.
En tout cas, avec les deux principes d'anthologie, on avait vraiment tout un pan historique de la science-fiction, des nouvelles, qui était en fond, quoi, qu'on pouvait consulter, qui était constamment réédité. Est-ce qu'il y a ces anthologies? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je sais que ça m'a marqué. Est-ce que certains d'entre vous ont été marqués par certaines anthologies en particulier, certains recueils, certaines nouvelles en particulier? Sylvie, toi qui adore les nouvelles.
Ah, mais moi, dès que j'ai commencé à rassembler une bibliothèque conséquente, la première chose que j'ai essayé de rassembler, c'est les 36 volumes. Et puis, j'ai enchaîné sur les livres d'or.
Prends le micro parce que ton micro,
il marche pas.
Il craque, en fait.
Moi qui suis une fan de nouvelles depuis toujours, oui, donc j'ai commencé avec toute la grande anthologie, puis tous les livres d'or, puis tout un tas d'autres recueils là, qui étaient plutôt réunis au un même auteur. Mais il y avait de quoi faire. Mais,
l'univers aussi après. Mais
oui, il y a eu tous les univers, bien sûr, qui étaient des anthologies non thématiques, là pour le coup. Mais qui donnait aussi une image d'une certaine actualité littéraire. Donc c'était un peu une manière de suivre les courants, les thématiques, comment ça a évolué. Et dans l'univers, il y avait déjà un mélange d'auteurs de différentes nationalités. Donc c'était aussi quelque chose qu'on était content de découvrir à ce moment-là.
Oui, parce qu'il y a les deux dimensions en fait dans les anthologies. Il y a le côté historique... fond où vraiment on a les classiques, parce que c'est ça aussi, c'était imprimé les classiques, et il y a aussi le côté actualité. Faisons une photographie de ce qui se fait maintenant en nouvelles, alors soit en France, soit à l'étranger, soit partout. Et vous avez tous dirigé des anthologies. Je voudrais que vous me racontiez tous. Alors Gérard a expliqué un peu comment ça se passait. Peut-être Sylvie Miller, toi qui tu en as dirigé. Je sais pas si tu en as dirigé toute seule ou chaque fois avec Lionel.
Alors j'ai eu un travail toute seule sur notamment les deux antos sur Dimension Latino et Dimension Espagne, où là il y a eu un vrai travail de collecte de textes. Et alors curieusement, moi je suis rentrée effectivement dans la nouvelle de SF par les lectures étrangères. Et j'ai ensuite découvert les anthologies françaises plus tard. Et donc j'ai lu beaucoup de choses en anglo-saxon et puis en hispanique. Et c'est ce qui m'a donné ensuite l'idée de compiler ces deux anthologies avec un petit appareil critique à côté pour présenter la SF de cette ère géographique. Et j'ai d'ailleurs un Dimension Cuba qui est en chantier depuis X temps, mais que j'ai pas le temps de finir et pas le temps de traduire, mais que je tiens quand même à terminer à un moment donné. Et ensuite, il y a eu le travail notamment en commun avec Lionel sur les anthologies des Imaginales, hein, puisqu'on en a co-dirigé 3 ensemble. Et sinon, à part ça, il y a eu de l'écriture de nouvelles dans des antos. Voilà.
Oui, vous avez tous publié dans des antos aussi.
Oui. Voilà. Oui, parce qu'on a tous effectivement touché à la nouvelle, et c'est un format d'écriture qui nous convient. Et souvent, effectivement, quand on est soi-même auteur de nouvelles, ensuite, quand on dirige une anto, on peut avoir un certain regard sur les... Puisque finalement, il faut avoir un regard sur les nouvelles des auteurs que l'on va présenter dans l'anto et savoir les faire un petit peu retravailler... Et quand on n'est pas auteur de nouvelles soi-même, c'est peut-être plus compliqué. Alors, Puisqu'on parlait du format spécifique de la nouvelle, notamment chez les hispaniques, moi j'ai rencontré un autre format qui existe, qui est le format de la novella, qu'on n'a absolument pas chez nous. Et notamment dans les... Il commence, voilà. Mais quand je dis qu'on n'a absolument pas, en tout cas, ce qui n'était pas dans notre tradition et qu'on avait du mal à faire publier. Alors que, par exemple, je vois les premios ignotus de ciencia ficción, donc les prix ignotus de science-fiction qui sont donc décernés durant les conventions de SF en Espagne, ils ont carrément la catégorie novella et dans laquelle il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un format chez eux qui est complètement installé. Alors
nous, on regroupe tout sous l'appellation novella, tous les textes courts, ce qui n'est pas roman.
Oui. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. J'ai perdu le fil. Donc, je disais que quand on est auteur de nouvelles, du coup, ça permet aussi de pouvoir un petit peu maîtriser, parce que c'est effectivement un objet très particulier, la nouvelle, qui n'a rien à voir avec le roman dans la façon de le construire. Et du coup, quand on veut monter une anthologie, il faut savoir articuler les textes entre eux, comment on les place, puisqu'ils ont chacun leur spécificité, comment est-ce que ça va résonner mieux si on met celui-ci avant celui-là, quel va être le texte qu'on va mettre en ouverture, quel va être le texte qu'on met en conclusion, parce que ça aussi, ça dit des choses, et c'est tout un... On a eu beaucoup de discussions, justement, avec Lionel là-dessus.
Et après, il y a des monstres qui lisent les textes dans le désordre.
Ouais, c'est comme les pistes dans un CD.
Je peux enchaîner là sur ce que dit Sylvie, parce que il faudrait peut-être quand même aussi expliquer qu'il y a au moins deux types d'anthologies. Il y a les appels à textes fermés et les appels à textes ouverts. Et pour l'anthologiste, ça change tout.
Et aussi avec des thématiques et sans thématiques.
Oui, il y a aussi. Mais pour la distinction ouvert-non ouvert, les questions de composition, par exemple, ne se posent pas de la même façon. Puisqu'en gros... Un appel à texte fermé, enfin peut-être que tout le monde connaît, hein, je suis désolée si je dis des évidences, mais un appel à texte fermé, il y a des auteurs qui sont sollicités. Je n'ai jamais été dans la position d'un anthologiste qui lance un appel à texte fermé, mais j'imagine que la difficulté dans ce cas-là consiste à décider de ce qu'on doit faire quand on reçoit un texte qui ne vous convainc pas tout à fait.
Alors qu'on l'a demandé,
donc il devient très difficile de le refuser puisque c'est pratiquement une commande. Par contre, moi je suis en train d'expérimenter la position de l'anthologiste qui a lancé un appel à texte ouvert, et dans ce cas-là, il y a habituellement une thématique, puisque pour le même éditeur que Simon, Par chemin et traverse, j'ai une anthologie sur laquelle je travaille et qui s'appelle Vulnérable, voilà, c'est une thématique précise. Là, je peux témoigner de la surprise que j'ai eue. J'avais complètement sous-estimé ce qui se passait dans un cas comme ça, et je ne m'attendais pas du tout à recevoir plus de 140 textes, ce qui met l'anthologiste dans une position difficile. Et pour aller jusqu'au bout de l'explication, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire, donc autant le dire maintenant, il y a une chose que j'avais complètement sous-estimée, pensant naïvement qu'il suffisait de donner une thématique et de l'expliquer et de rédiger un petit appel à texte où j'avais essayé de bien préciser l'intention, le projet. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tout un tas de gens m'envoient des textes qu'ils avaient sous le coude. Et j'ai passé... Mais je suis très naïve. J'ai complètement sous-estimé ça. Non, mais moquez-vous de moi, vous pouvez. Toi aussi. J'ai lu les 40 premiers très attentivement, parce qu'ils avaient souvent un intérêt littéraire, en me creusant les méninges, en me disant, mais oui, il y a un rapport avec le thème. Oui, mais si, oui, effectivement, si on réfléchit à ça, oui, si je fais retravailler un petit peu sous cet angle, oui, ça finira par coller à la thématique. Et j'ai fini par me rendre compte que quand j'ai commencé à envoyer quelques refus, parce que vraiment, j'arrivais pas à faire coller avec le thème, et que les gens me répondaient, « Oh, ben, je m'en doutais bien, hein, je vous ai envoyé ça parce que je savais pas quoi en faire et que j'avais... » C'est là que je me suis rendu compte à quel point j'avais été naïve.
J'ai dirigé une revue de nouvelles de science-fiction, et pendant 2 ans, on a dû recevoir 4 ou 5 trilogies de fantasy, des romans de fantasy.
J'ai reçu aussi des romans hein, d'auteurs qui me disaient « Vous serez sûrement très heureux de découvrir mon roman que j'ai le plaisir de vous offrir, mais je ne dirai pas ce qui s'est passé ensuite. »
Alors, oui, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur la question de la logique historique et pratique de ces différentes choses, mais avant ça, je veux juste dire un petit mot du processus, de la logique pour la sélection que Sylvie est en train de découvrir et que moi j'ai découvert l'année dernière. Mais simplement une chose, quelque chose qui me semble, pour compléter ce qui a déjà été dit, qui est tout à fait juste sur le raisonnement, comment organiser la chose. Comment constituer, bon. Mais en fait, une chose qui, moi, m'a frappé dans tout cela, c'est que jusque-là, j'avais étudié en tant qu'historien l'existence d'anthologie, et pour moi, c'était un acte. C'est-à-dire, c'était, quelqu'un fait une anthologie, hop, elle est. Et j'ai, du coup, vécu ça très étrangement parce que je cherchais justement l'acte, et je ne l'ai jamais trouvé. C'est-à-dire que c'est un processus, c'est un continuum entre un magma de texte qu'il va falloir organiser d'une manière ou d'une autre et un produit fini. Mais entre les deux, il n'y a jamais véritablement... Enfin, il y a des actes. On envoie un mail pour dire non, oui. Mais il n'y a jamais vraiment l'acte de l'anthologie. Il y a juste, c'est vraiment bon. Et beaucoup plus, je trouve que comme le processus, beaucoup plus que l'écriture, que je vois encore comme un acte spécifique, comme quelque chose. Il y a vraiment toute une série de choses qui entrent en ligne de compte. Bref,
je peux intervenir.
Oui, monsieur.
Par hasard. C'est toi, chef. Non, mais parce que je c'est pour faire une remarque, c'est pas pour passer les. Par hasard, j'ai cette anthologie, c'est l'édition originale de Dangerous Vision de Darren Ellison, et pour le coup, là, il y a un vrai acte. C'est-à-dire qu'avant d'aller demander des textes, il avait vraiment posé les choses en disant, on va tout faire péter, en gros, c'est ça. C'était sans doute un petit peu mégalo, mais il y a certains projets d'anthologie qui sont vraiment des choses plus politiques,
alors,
plus...
Oui, alors justement, c'est effectivement le genre de choses que je voulais ajouter à la conversation. Mais en fait, je suis pas... Enfin, je pense que c'est deux choses différentes. Parce que justement, ce que tu es en train de présenter comme un acte, à mon avis, a été un processus pour lui. Mais c'est aussi un acte. C'est-à-dire que de fait, historiquement, enfin, dans la logique de la chose, il y a cet effet, une action. C'est de fait, la grande anthologie de la science-fiction, quand elle est présente, c'est un acte d'édition.
Oui.
Mais il y a toute cette dimension de vécu de l'anthologiste qui a été une découverte pour moi, c'est ce que je voulais dire.
Okay.
Mais effectivement, et c'est super que tu parles de vision dangereuse, Dangerous Vision, parce qu'en fait, quelque chose qui est assez frappant sur l'histoire de la logique de l'anthologie en France, c'est que finalement il y a cette correspondance tout à fait frappante entre la parution, le moment où le projet de la grande anthologie arrive à son aboutissement et représente une logique de patrimonialisation extraordinaire, constitution d'un fonds, comme tu disais tout à l'heure, ça devient un fonds commun, c'est un acte encyclopédique. Il y a de très forts actes encyclopédiques pendant les 70, je ne vais pas en reparler en dehors de cela, mais il y a cet acte-là. Il y a aussi le grandiose avenir dont tu n'as pas parlé, mais qui est aussi une logique de cumul de textes. Non, mais c'est aussi une logique de patrimonialisation, de mise en avant de textes, et cette logique-là, elle a assez rapidement cédé la place par la concomitance de la parution de Vision dangereuse en 75 en France, c'est-à-dire donc presque 10 ans après sa parution aux États-Unis. Donc la réalisation qu'il existe cet acte qui consiste à rassembler des gens dans un même projet et dire allez, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est quelque chose qui a été très fort dans les années 70. Il y a eu plusieurs anthologies de ce type. Et avec cette idée, tu parlais d'appel à texte fermé, je suis parfaitement d'accord sur ce principe, mais justement, l'appel à texte fermé, je crois que même quand les textes sont mauvais, l'idée, c'est que de toute façon, ce qui compte, c'est justement l'acte politique, là, ou politique, ou enfin éditorial, esthétique, de mise en avant.
Tu penses aux anthologies de Bernard Blanc, par exemple
Les anthologies de Bernard Blanc, même des anthologies de type futur, super futur, Utopie 75, qui est paru chez Ailleurs et Demain, et qui avait été fait par Michel Jury, je crois, c'est ça. Voilà, ce genre de choses. Et je ne vais pas refaire tout l'historique, et je vais laisser bien sûr les autres parler là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que cette tradition se retrouve de loin en loin, parce qu'il n'y a jamais de continuité dans l'histoire des anthologies, parce que la situation d'édition n'est pas simple, mais qu'il y a eu des moments forts comme ça, très importants, de type escale sur l'horizon 98.
Il y avait eu celle de Yale avant... Genèse, voilà.
Voilà, il y a plusieurs points de repère. Voilà, il y a plusieurs points de repère, et c'est un moment où on va essayer de regrouper des gens sous une bannière. Ça marche plus ou moins bien. Retour sur l'horizon avait plus fait parler de lui à cause de la métaphysique et de la discussion sur le fil M éventuellement dans le milieu, mais c'était un recueil qui lui-même voulait marquer. Et donc il y a régulièrement ces moments où des recueils, des anthologies sont destinés à marquer. Et je crois que l'appel à texte fermé dans cette logique-là se comprend beaucoup moins comme un appel à talent que comme un appel à marquer le coup.
Oui, voilà. Avant de donner la parole à Gérard, je voudrais juste faire une remarque, une métaphore sportive. Alors, je sais que c'est... pour Retour sur l'horizon, par exemple, c'était ceux qui envoyaient un texte, va-t-on intégrer l'équipe de France de science-fiction, quoi. En gros, c'était ça, quoi. C'était vraiment les gens qui font la nouvelle de SF en ce moment en France. Voilà, on va poser ce truc. Gérard.
Oui, je voulais juste faire une petite remarque pour distinguer anthologie, qui est un choix de textes précédemment publiés, et recueil collectif. Hein.
Par exemple, alors là, on a mélangé les deux.
Non,
oui,
et or ça me paraît être une erreur profonde, parce que la logique d'édition, enfin le travail, n'est pas du tout le même. J'ai fait les deux, ou indirectement au travers de Michel Jury, par exemple. Mais c'est donc d'un côté, je crois qu'il ne faut pas être recueil collectif, particulièrement il y a appel à texte. Dangerous Visions, par exemple, qu'a édité Harlan Ellison, c'est un recueil collectif. Ce sont des recueils collectifs. Et il faut dire que Ellison, que j'ai un peu connu, n'ayant pas la main légère, ça n'a pas dû se passer sans qu'il coule beaucoup de sang. Donc j'insiste sur cette distinction.
C'est peut-être un peu votre faute si on appelle les recueils collectifs une anthologie maintenant. Peut-être que c'est à cause de la grande anthologie, par abus de langage.
Non, alors il y avait probablement une des premières, ça c'est possible, mais une des premières, comme ça avait marché, on imite ce qui marche. Mais une des premières anthologies qu'on n'a pas évoquées, qui était parue dans le rayon fantastique, c'était Escale dans l'infini. Et qui était, je pense que c'était Spriel. Non, il y a eu Escale dans l'infini avant, et je pense que c'est Michel Pilotin, Stéphane Spriel qui l'avait composé, peut-être avec l'aide de Galem, enfin ça m'étonnerait parce que ça reflète beaucoup plus les goûts de Pilotin que... Non, il n'avait pas du tout le même point de vue sur la science-fiction. Bon, enfin voilà, c'est la petite remarque que je voulais faire en passant.
Lionel, tu arrives en retard, mais on va quand même te laisser parler un moment. Toi, tu es auteur de romans de nouvelles. Et comment on passe d'auteur de nouvelles à anthologiste? Parce qu'anthologiste, on devient en quelque sorte éditeur. On fait du travail éditorial sur un texte. Mmh. Comment on fait cette transition?
Dans mon cas, j'avais aussi, parce qu'en parlant d'ailleurs, parce que c'est presque à mi-chemin avec ce que disait Gérard sur l'anthologie au sens strict et le recueil collectif, les revues n'ont pas de thème, mais elles ont aussi fréquemment une portée patrimoniale. Il y avait Galaxy, ancienne série, qui cherchait à faire, bon, et la nouvelle série aussi, mais cherchait à faire des dossiers thématiques pour, en plus des textes qui sont parfois des inédits pour le cas des francophones, mais souvent des textes qui sont allés chercher dans les Year's Best, etc., pour les étrangers. Je sais que moi, quand je dirigeais Asphodel dans les années 2004, bon, leur revue a pas vécu longtemps, mais se voulait de, je reviens juste sur la vocation patrimoniale, se voulait à l'époque, en 2004, la fantasy n'est pas le genre identifié du grand public comme il l'est maintenant. On voit juste arriver le phénomène Harry Potter, le Seigneur des Anneaux au cinéma, etc. Donc il y a quelque chose qui se dessine pour le grand public. Et on essaye de montrer toute l'envergure de la fantasy, une ambition qu'on avait un petit peu aussi avec les Antos des Imaginales. Et les revues sont un peu à mi-chemin, parce qu'il y a aussi l'éditorial qui essaye de montrer, bon voilà, la diversité d'un genre, voilà ce que c'est, voilà tel thème, etc. Comment on passe de l'un à l'autre, c'est une excellente question à laquelle je suis pas sûr d'avoir tellement la réponse. Moi, j'avais, en ce qui nous concerne, on avait une expérience éditoriale avec Sylvie, chacun de notre côté. Sylvie avec les anthologies Dimension concernant l'Amérique latine, et moi justement avec Asphodel. Et je, comme aussi on était, donc c'est les anthologies du festival Imaginal, donc se voulait aussi un peu représenter la vivacité du genre de la fantasy, essayer aussi En tout cas, nous, c'était l'ambition qu'on avait un peu de sortir de l'archétype médiéval fantastique tolkienien concernant le genre, en essayant de montrer que, bon, oui, c'est ce qui a fondé le genre et c'est ce qui l'a cristallisé, mais pour diverses raisons de distorsion économique aussi en grande partie, ça a un peu cannibalisé le genre. On voulait essayer de montrer quand même un certain nombre de décennies après que la fantasy pouvait être, c'était ça, mais ça pouvait être autre chose aussi. Et comment on s'est retrouvé là? Je pense que, bah, comme on était au festival depuis longemps, il y avait une sorte de quand Stéphanie Nicourt, donc elle éditait les trois premières anthologies du tu me corriges hein, Sylvie, je parle aussi. Elle a dirigé les trois premières et pour elle avait toujours eu la volonté de passer la main à un moment, en se disant je veux pas que ça finisse par tourner en rond et que ça ne soit que ma vision, puisqu'il s'agit aussi de montrer, même si c'est l'anthologie de Festival Imaginal, il s'agit de montrer tout le dynamisme et toute la vivacité du genre, pour le coup résolument en langue française. Donc voilà, ayant travaillé de longue date avec le festival, ne serait-ce que pour les Sylvie en modération et nous deux pour l'interprétariat et les tables rondes, on connaissait le festival et on avait une certaine communauté de vision, en plus d'avoir les compétences, je l'espère, éditoriales, pour se lancer dans quelque chose comme ça. Du coup, là pour le coup, c'était une volonté de montrer le dynamisme de la fantasy francophone. Et aussi la variété du genre. On a eu certaines discussions sur certains textes, notamment dans les premières, où il y avait certains textes dont on savait qu'ils ne feraient pas nécessairement l'unanimité, qui pouvaient même être un peu, pas prêtés à polémique, non pas sur le plan politique ou ce genre de choses, mais sur le plan esthétique, mais qui nous semblait important d'avoir, parce que ça montrait aussi que la fantaisie pouvait et la tournure d'esprit du merveilleux pouvait partir dans des tangentes qui pouvaient être inhabituelles, et que ça nous semblait important de montrer, toujours pour montrer la diversité et l'étendue du genre, et puisque voilà, les imaginales parlent de toute forme de fantaisie, essayer toujours de désincarcérer la fantaisie de son archétype tolkienien, ce qui est encore ce que les gens disent, hein, quand vous parlez de fantaisie, ah ouais, les trucs avec les elfes et les dragons, oui, il y en a aussi, mais il n'y a pas que ça. J'ai rien contre les elfes et les dragons.
C'est les trucs qui sont pas les trucs avec les fusées et les robots, tu l'as dit.
Exactement, voilà, exactement. C'est, oui, il y a, oui, bien sûr qu'il y a ça, et bien sûr que c'est fondateur dans le genre. Mais il y a beaucoup plus d'autres choses que ça, et voilà, c'était l'ambition de montrer cette diversité aussi, et cette vivacité aussi, y compris en langue française. Dans un genre aussi où, voilà, la fantasy est moins associée à la nouvelle dans l'esprit des gens. Là, on dit souvent que la nouvelle est une forme reine pour la science-fiction. C'est moins évident dans l'esprit des gens pour la fantasy.
Oui, je voulais dire que ce qui était très très intéressant, c'est qu'on ait co-dirigé les anthologies. Moi, j'avais vécu ou les recueils collectifs, devrions-nous dire. Moi, j'avais vu, là pour le coup, la collecte de textes qui avait déjà été publiée et qui donnait un panorama de la science-fiction espagnole dans la première anthologie, latino-américaine dans la deuxième, et où là, c'était vraiment un travail de compilation, de choix que j'ai fait toute seule. Là, autour de ces recueils collectifs, le fait d'être à deux, ça représentait quand même un certain confort, parce qu'on a pu conforter nos visions et discuter. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup argumenté.
Je pense qu'on ne sait pas si on en parlera un moment, mais pour la question du retravail et la direction littéraire, on a également pu jouer sur nos forces respectives, en fonction des sensibilités qu'on avait, ce qui est quand même aussi un confort, et qui, j'ose espérer, a pu contribuer aussi à la diversité de ces recueils collectifs, justement parce qu'on était deux aux commandes, et de pouvoir se répartir le travail en fonction de nos sensibilités, de nos affinités littéraires respectives.
Et alors, pour finir, pour parler de l'appel à texte fermé, justement, on a eu un cas d'un auteur. Donc,
parce que l'anthologie d'imaginal est un...
Ce sont des appels à texte fermés où on contacte les
auteurs qui sont invités et que vous voulez publier aussi.
Voilà. Et donc, on a eu le cas d'un texte, effectivement, qui nous posait problème. Et alors là, on était d'accord tous les deux. En l'état, il passait pas, on avait des soucis, mais on s'est dit, avec un peu de retravail, ça pourrait aller. Donc, on a proposé le retravail. Et là, la réponse ça a été clair, non, moi je l'ai pondu comme ça, je ne le retravaille pas, parce que moi c'est comme ça que je le veux. Et là on était un peu gênés en disant bah oui, mais nous ça peut pas passer. Et bon, bah là l'auteur a dit c'est pas grave, je le placerai ailleurs, de toute façon c'est pas grave, on va pas se disputer, je le prends pas mal, mais voilà, la personne a dit non, du coup mon texte sera pas dans l'anto et on l'a pas publié. C'était le seul cas, hein, parce que sinon, la plupart du temps, ça se passait plutôt
en
bien.
En général, il faut dire que dans les antos fermés de type imaginal ou utopial, on demande à des auteurs soit anglo-saxons, donc c'est souvent des nouvelles qui sont déjà publiées ailleurs, soit des auteurs français qui ont quand même déjà un certain... un peu de bouteille ou qui ont déjà publié par ailleurs, qui savent déjà le thème et qui voilà quoi, et en qui l'anthologiste, enfin moi pour avoir participé à l'anto Utopia là, avec Jérôme Vincent il y a quelques deux fois, Jérôme savait qu'en venant nous chercher, voilà, il sait dans quoi il met les pieds et on sait nous aussi quand on est auteur dans quoi on met les pieds avec un anthologiste qu'on connaît bien. Voilà. Simon.
Oui, je voulais poursuivre sur cette histoire, cette question des recueils collectifs, mais que nous appelons anthologie, comme l'anthologie utopiale. Bon. Et en fait, je me suis posé la question quand j'ai fait ce petit historique. Je me suis demandé finalement si, mais j'ai pas assez d'éléments parce que je connais pas tant que ça toute l'édition récente, donc je soumets l'hypothèse à mes camarades. Je me demande si on ne peut pas parler depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais en gros une dizaine d'années, d'une logique de l'anthologie, donc avec abus de langage, bon, de l'anthologie de célébration. C'est-à-dire finalement, et j'inclus Parchemin et Traverse là-dedans, c'est-à-dire finalement, quand je dis célébration, c'est pour le dire de façon très large, c'est-à-dire que finalement l'anthologie utopiale, l'anthologie imaginale, bon, c'est des recueils qui sont là pour finalement créer un lien avec les auteurs présents, qu'on prend plaisir à venir faire signer aux différents auteurs. Et je mettrais dans la même catégorie, même si ça ne part pas du tout de la même démarche, hein, mais je mettrais dans la même catégorie les logiques de ces anthologies, recueils de type Parchemin et Traverse, mais il y en a de très nombreux par ailleurs, qui correspondent à de l'édition amateur, semi-pro, mais qui se fait de la façon la plus solide possible, et qui, là encore, est en logique de main tendue vis-à-vis d'une communauté. C'est-à-dire que finalement, même si bien sûr le niveau n'est pas toujours... Il y a aussi des écrivains tout à fait pros dans les anthologies Parchemin et Traverse ou ce type d'anthologie, mais l'idée c'est au départ plutôt une forme d'ouverture en général à la création, plutôt que, je trouve que ce n'est pas le même geste du tout, que le geste des recueils qu'il pouvait y avoir avant, dont on a parlé, de type Escale, de type Retour sur l'horizon, de type Super Futur plus ancien. Non pas pour les opposer, mais pour dire simplement, finalement, la logique, c'est pas forcément une affirmation d'une esthétique, mais c'est une façon de créer une mise en relation.
C'est très important ce que tu dis, c'est qu'il y a peu de revues de genre, il y a peu de moyens de placer des textes, et il faut quand même que les débutants débutent, quoi. Et voilà, c'est très important d'inclure ces gens. Peut-être que leurs textes sont pas parfaits, mais voilà, c'est des encouragements. Et les auteurs de demain sont sans doute là. Et voilà, c'est très important.
Et pour eux, c'est aussi une garantie d'être lus, parce que c'est effectivement le cas d'un certain nombre de projets. Celui sur lequel je travaille est assez proche de celui de Simon, donc notre fil conducteur, c'est d'essayer d'équilibrer les auteurs professionnels avec les auteurs quasi débutants ou même totalement débutants quelquefois, qu'on accompagnera pour qu'ils arrivent à leur meilleur niveau, de manière à ce que ce soit pas du tout une anthologie à deux vitesses, mais un bel objet à l'arrivée. La difficulté d'ailleurs sera dans la construction, l'enchaînement. Moi j'en suis pas encore à ce stade, mais d'autres...
Je vous encourage d'ailleurs, si vous avez des textes qui n'ont rien à voir avec le thème, allez donner à Sylvie Lenné tout ça.
Non, après, merci, des trilogies. Je ne prends plus rien. Oui, on vous dira qui est votre prochaine victime, mais moi c'est fini. Mais moi, les premières fois où j'ai été publiée, c'était dans Univers, ma première publication professionnelle.
T'as pas commencé, toi, tout petit, quoi.
C'est ah non, déjà... j'ai commencé... j'ai failli être dans un projet qui s'appelait Utopie 85, chez Ailleurs et Demain.
D'ailleurs, Pierre-Paul Durastanti vous aveut encore, parce que il est jamais
sorti. La première année, à cette époque, il y avait quand même des merveilleux projets et de belles perspectives. Il y en a toujours. Mais actuellement, pour un auteur débutant, il y a quand même beaucoup plus de possibilités chez des petits éditeurs, il faut bien le dire.
Je vais dire un mot sur Utopie 85. Et plus directement sur sa non-existence, c'est autant Utopie 75, enfin Michel Jurix s'en est occupé pour l'essentiel, ça s'est très très bien passé. Pour Utopie 85, c'est très simple, nous n'avons jamais reçu assez de textes pour constituer un recueil. Il y en avait peut-être deux ou trois au grand maximum qui tenaient la route, et puis c'était tout. Bon, et donc on a, alors évidemment, mais... Non, non, pas du tout. Mais donc on n'a pas eu de quoi faire l'anthologie et on l'a pas faite, c'est tout.
Lionel, vas-y, ouais, tu voulais.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Simon sur l'aspect célébration. Et allant dans le prolongation de ça, je pense qu'il y a toujours, et Sylvie l'a très bien dit, je pense que dans l'acte de créer de publier une anthologie, il y a toujours un petit, on n'est pas dans le cadre de Dangerous Visions, un petit côté manifeste quand même. Manifeste que ce soit, bah, il faut bien justement, comme tu le dis très justement, que les débutants débutent. Voilà, il y a exactement. Il y a, ou alors, c'est, voilà, ce sont les, je prends l'exemple des utopiales ou des imaginales, je prends l'exemple des imaginales comme je le connais forcément mieux. Il y a le côté, voilà, c'est un rendez-vous, c'est un temps fort de l'année concernant un genre, l'imaginaire, plus orienté vers la fantasy dans le cadre des imaginales. Donc, on va en profiter pour peut-être pas forcément faire un panorama, mais en gros, faire essayer justement, nous c'était la démarche qu'on avait, faire, encore une fois, 100 ans, hein, c'est pas Dangerous Visions, mais un petit côté manifeste de dire voilà ce que c'est que la vivacité, tout simplement, du genre d'expression française aujourd'hui. Et forcément, les festivals sont un moment fort pour essayer de parler, pas forcément promouvoir, mais parler de cette vision-là. Donc, et le côté célébration, pour moi, va main dans la main avec ce petit côté manifeste, ce côté voici. Regardez, voici la vivacité de ce qui se fait. Et ça va avec les jeunes auteurs aussi.
Oui. Alors pour parler des petites maisons d'édition, ou je voulais aussi parler de Rivière Blanche, qui dans sa collection Dimension, justement, fait énormément justement d'anthologies ou de recueils collectifs thématiques, et qui du coup permet à des jeunes qui mélangent dans ces recueils justement des plumes un peu plus affirmées avec des plus jeunes, mais donne aussi la possibilité à des jeunes qui ont envie d'être anthologistes eux-mêmes, ou en tout cas de faire ce travail de rassembleur. Donc, et c'est vrai qu'il y a une vraie vivacité sur ces petites maisons d'édition.
Gérard ?
Oui, ce que je voulais simplement faire remarquer à propos d'Utopie 75 et 85, c'est que ce que je demandais, ce que je voulais réellement publier, c'était des utopies. C'est-à-dire, écrivez-moi des histoires de monde meilleur. Et je ne sais pas ce que ça serait aujourd'hui, mais c'est là-dessus que ça a buté. Je ne voulais pas faire un recueil collectif de science-fiction en général, c'était bien des utopies, et j'ai quand même été surpris des difficultés que nous avons rencontrées déjà en 1975 d'ailleurs. Il y a un très très beau texte de Michel Jury, il y a l'autre très beau texte, mais qui souvent s'écarte un peu de l'utopie. Mais en 1985, en matière d'utopie, on n'a rien su du tout. Je ne sais pas ce que tu nous avais envoyé. Oui, ma mémoire n'étant plus ce qu'elle était, je ne connais pas le texte par cœur. Ben, j'en suis convaincu. Mais enfin, c'est sur ce thème de l'utopie que ça a buté.
D'accord.
Quoi.
Alors, on a très peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui, allez-y.
C'était par rapport à l'anecdote, justement, des centaines de manuscrits reçus. Vous attribuez ce phénomène à quoi ? Est-ce que c'est un manque d'éditeurs ? Ou alors, il y a plein de gens qui envoient et qui n'ont pas spécialement de talent ? Enfin, c'est quoi votre...
Non, non, j'ai bien précisé que j'ai passé beaucoup de temps au début sur les premiers textes parce que globalement, c'était pas des choses que j'avais envie de jeter, que j'ai lues jusqu'au bout, que j'ai lues jusqu'au bout avec plaisir et qui, globalement, tenaient pas mal la route. Je dis pas que tout était publiable, mais j'ai été, pour avoir dirigé une revue il y a très longtemps, un fanzine, et pour avoir reçu pas mal de textes à cette époque-là.
Les Lames Vorpales.
Les Lames Vorpales, merci. Je trouve que le niveau moyen de ce que j'ai reçu cette fois-ci est largement meilleur. Je pense que c'est dû pour partie à tous les ateliers collectifs qui se mettent en place, tous les groupes d'entraide, Cocyclix ou d'autres, qui font que les gens se relisent, se corrigent. Et globalement, ce que j'ai reçu, c'est bien écrit, disons. Alors après, pourquoi j'en ai reçu autant ? J'en ai reçu, c'est vrai, davantage que... Je crois que tu en as reçu moins, un petit peu moins.
Un petit peu moins, mais
et je mal. Et je pense que ça tient aussi à la thématique. Et je vais d'ailleurs en profiter pour dire... Est-ce que je le dis ? Je me suis presque mordu les doigts d'avoir construit cette thématique qui présente peut-être un peu les mêmes difficultés que la thématique de l'utopie. Il n'y a rien de plus difficile à écrire qu'une utopie. De toute façon, un environnement où les choses se passeraient bien serait profondément ennuyeux. Donc déjà, on a un paradoxe au départ. Ou alors, il faut quelqu'un qui est malheureux dans une utopie. Ou il faut quelqu'un qui a envie de faire la révolution dans une utopie, ce qui est quand même un paradoxe. Mathématiques, c'était vulnérable. J'avais envie qu'on ait le point de vue de quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité, dépendant des autres, qui nous explique le cheminement de ceux qui ont choisi de le défendre ou de l'abandonner. C'était complexe. Mais ça virait dans un nombre important de cas. Et là, je parle pas des gens qui m'ont envoyé ce qu'ils avaient de près et qu'ils avaient envie de soumettre, quel que soit le thème. Mais par rapport aux gens qui ont travaillé sur le thème, il y en a un certain nombre qui ont pris ça sous l'angle... sous un angle un peu tragique, avec autour de la question du sacrifice, autour de la question de, et qui pour moi était un peu en décalage avec la thématique. Mais peut-être que de le prendre sous cet angle un peu plus tragique, peut-être que ce que j'imaginais, a suscité des envies. En tout cas, cette thématique pouvait être interprétée de plusieurs façons et moi, à l'arrivée, j'ai des difficultés à trouver les axes qu'il faut privilégier pour donner un peu la diversité des approches qu'on peut avoir sur cette thématique, mais en gardant de la cohérence quand même. Je me dis, j'aurais peut-être dû prendre des thématiques beaucoup plus triviales, les chaussettes, les arbres, les machines à coudre. Ça aurait peut-être été plus facile.
Simon, tu as encore...
Ce que tu dis, c'est très très intéressant parce que ça souligne en fait la difficulté pour celui qui a ce projet-là en tête de rédiger son appel à texte pour essayer de faire comprendre ce vers quoi on veut tendre. Et on a toujours des surprises à l'arrivée, surtout dans un appel à texte ouvert, parce qu'il peut y avoir des visions différentes et c'est vraiment la difficulté de cadrer le thème parce qu'après, pour organiser ton sommaire, c'est très compliqué.
Si alors, très vite, on a plus
oui,
de temps.
Très vite. Mon expérience fait évidemment écho à celle de Sylvie, puisque c'est le même type de public. Mais je dois dire qu'une chose qui m'a frappé pour poursuivre un peu cette idée de finalement pourquoi autant de personnes envoient des textes, je pense qu'il y a un véritable désir d'écrire, qui s'est répandu dans notre société, qui est associé à l'acte de lire, et il y a une circulation très très facile dans les réseaux numériques et de nombreux supports, on a entendu parler déjà un peu aujourd'hui, Wattpad, des choses comme ça, permettent d'assouvir ce désir d'écrire. Il y a le désir d'être lu et de voir un petit peu de ce qui peut fonctionner. Et alors, une chose que j'ai trouvée absolument extraordinaire à cet égard, c'est de me rendre compte, parce que j'avais une angoisse profonde qui était celle de dire non aux gens, j'aime pas dire non. Donc ça a été un acte pour moi assez difficile, mais je l'ai fait quand même. Et même à ceux auxquels je disais oui, je disais toujours oui, mais. J'ai répondu. Et moi, c'était toujours un oui, mais. Oui, mais parce qu'il fallait retravailler. Quoi qu'il arrive, aucun texte presque n'a été. Il y en a un qui est passé très bien, mais c'est tout. Et tous les autres ont été très retravaillés. Et j'avais très peur aussi de ça parce que dans l'édition universitaire, parce que j'en connais, quand j'envoie des commentaires à des gens pour leur expliquer que leur article doit être retravaillé, j'ai affaire à des égos très très difficiles à manier, c'est très compliqué, alors même que c'est des arguments scientifiques et qu'on peut débattre sur des arguments scientifiques. Là, c'était vraiment des arguments esthétiques, comment améliorer le texte, et en fait les gens étaient prêts à jouer le jeu de façon absolument extraordinaire, et donc ça a été une expérience de ce point de vue là une sorte de soulagement profond et en même temps un plaisir de travailler, de faire retravailler assez longuement quand même. Et ça, de ce point de vue là justement, peut-être plus facilement qu'avec que dans un texte fermé justement, mais toujours est-il que je crois que c'est ce désir d'écrire qui est présent et qui est dans la logique de célébration dont je parlais tout à l'heure.
Merci. On est obligé de. Je suis désolé, on est obligé d'arrêter.
C'était pas une question, juste pour aller vite. Parce que que je fais très très vite. En fait, j'ai 40 ans. Quand j'étais tout petit, on m'avait donné des livres de science-fiction qui ont été l'étincelle. Et la grande anthologie de la science-fiction, c'est le petit bois qui a fait vivre la flamme. Et je vois beaucoup de gens qui sont interviewés aux États-Unis à la NASA qui disent « Quand j'étais jeune, j'ai vu Star Trek et ça m'a donné envie de faire des sciences et ils ont fini à la NASA. » Moi, aujourd'hui, j'ai un métier à teneur un peu scientifique, on va dire. Et la grande anthologie de la science-fiction, moi, ça a été vraiment justement l'élément qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser. Donc, merci.
Ben, merci. Parfaite conclusion. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à nos invités.